Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
Direct des studios C de Boxing Town de Québec et Laurence écoute parler, l'épisode numéro 50, je pense que c'est 59 si ma mémoire est bonne, et elle est bonne selon mes chiffres, et oui, c'est l'épisode de mon anniversaire, je vais avoir l'âge assez vénérable pas 59 ans, de 39 ans cette semaine. Je suis né en février 82 à l'hôpital Bellechasse de manière prématurée. Je suis un véritable miracle de la nature. N'ayons pas peur des mots. Podcast 59, il va arriver bien des affaires parce que là, je suis en vacances. Fait que vous voyez, là, j'ai pris des pages et des pages de notes. Je me suis dit, tant qu'à être en vacances, aussi bien pour la première fois dans ma vie, arriver préparé quand je fais quelque chose. Donc, présentement, c'est le Super Bowl. N'ayons pas peur des mots, c'est la journée du Super Bowl et je suis assez nerveux parce que c'est la journée qu'on préfère. C'est la journée où on se rassemble avec une tonne d'amis pour écouter le match et ce soir, là, j'ai laissé de la place pour que vous puissiez pleurer. Je serai seul avec moi-même pour écouter le match. Mais Steve Vieira, qui est un ami proche, qui est aussi un handicapeur, c'est un gars qui fait partie d'un comité pour choisir les cotes de paris à Las Vegas. C'est un cercle fermé qui se rassemble et qui décide... Bon, ce soir, Tampa Bay va être favori. Ce soir, ça va être une autre équipe. Steve m'a donné 3 choix. D'ailleurs, on lui souhaite bonne fête. Steve a eu 39 ans cette semaine et c'est un des rares hommes que s'il se rase la barbe à zéro, il devient à 24 ans. C'est un gars qui perd 15 ans en se rasant. Fait qu'un jour, mais qu'il aille 101, il va juste à se raser, voire 86. C'est quand même moins de trouble. Et il nous donne ses 3 paris de la semaine. Alors, il y aura moins de 10,5 points au premier quart. Tom Brady va obtenir un touché par la course et Tom Brady se fera intercepter plus de 1,5 fois. Alors, pour ceux qui aiment prendre quelques petits paris sur mise au jeu et qui écouteront le podcast en après-midi, mais voici les paris. Alors, une belle occasion de faire énormément d'argent. Présentement, ça fait une semaine que je suis en vacances et je vous dirais que je ne fais pas grand-chose, qu'on n'a pas le droit de sortir de nos maisons. Mais comme j'ai pas le droit de faire grand-chose, ma vie se résume, et ça va fâcher ma bonne amie, Martine Vallière-Bisson. Ma vie se résume beaucoup à du Uber Eats, des siestes l'après-midi, puis écouter beaucoup trop d'émissions sur mon iPad. Alors, mes conseils culturels cette semaine, on est toujours dans l'intro. Hein. Dans l'intro, je me permets de parler d'autre chose que de la boxe et je me permets de parler de ma vie personnelle parce que j'ai, dans mes formations, comment être le meilleur podcasteur au Québec, c'est marqué que si je vous raconte ma vie, vous allez être capable de personnaliser l'animateur. Vous allez finir par m'aimer comme un membre de votre famille. Et c'est là que vous allez devenir loyal. Et c'est là que vous allez avoir le plus d'argent à investir pour mes chandails, pour mes casquettes. Et c'est là que vous allez écouter le podcast sans vous poser de questions semaine après semaine. On crée un faux sentiment de proximité entre l'animateur et son public pour qu'il y ait toujours plus de public. Okay? Ça, c'est des petits trucs. Là, je joue avec vos têtes. Et ça, aussi, après la défaite de Steven Butler, là, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup plus à écouter. Okay? Est-ce que vous êtes, les gens à la maison, plus intéressés à écouter des podcasts quand ça va mal que quand ça va bien? Okay? Si le Canadien perd 22 matchs de suite, est-ce qu'il y a plus de monde au 91-9 que si le Canadien gagne 22 matchs de suite? J'aimerais faire une enquête là-dessus. Alors, dans mes temps libres cette semaine sur Netflix, sur Netflix, je vous conseille l'émission préférée à moi puis Vincent Tremblay, Les Pires Prisons. Okay? C'est un gars qui a été 11 ans injustement en prison en Angleterre, qui est libéré puis qui fait le tour des prisons du monde. Okay? Il s'appelle Raphaël Rowe. Tu sais, c'est sûr que ça a l'air un peu arrangé que le gars des vues, là. Il rentre dans des prisons à sécurité maximum avec des gangs de rue, mais il y a quelqu'un qui filme, tu sais. Fait que... Tendez-vous pas à ce qu'il se fasse poignarder violemment, là, mais il rencontre toutes sortes de personnages, puis les prisons sont vraiment tout croches, là. À écouter sur Netflix. Sinon, j'écoute La Petite Vie de ce temps-ci, ça, c'est un peu... Allez, c'est un peu étrange. Pourquoi t'écoutes La Petite Vie? Ben, ça me fait rire. Et j'écoute C'est comme ça que je t'aime sur tout.tv. Okay? C'est des gens de Sainte-Foy, un couple, qui vont porter leur enfant au camp de vacances. Puis là, ils se rendent compte qu'ils s'aiment plus, qu'il n'y a plus de flamme dans leur couple, mais par la force des choses, finissent par tuer quelqu'un. Ils vont créer une organisation criminelle. Ils tombent dans un engrenage, c'est québécois, là, avec François Parenteau, puis toutes les gens que vous connaissez, là, Rémi-Pierre Paquin. C'est drôle, ça blasphème, ça fume. Toutes des affaires qu'on n'est pas habitué de voir à la télévision. Ça se tire à bout portant. C'est sur tout.tv et c'est excellent. Alors, ce sont mes conseils pour les gens qui sont en vacances ou confinés. Cette semaine au podcast, on a un tout nouveau segment. Tenez-vous bien. Une chronique culturelle avec un ami proche, et on va commencer le podcast avec ça. On reçoit pour une chronique Frédéric Gagnon, notre nouveau chroniqueur culturel, et après ça, on va tomber dans la boxe.
Salut mon Laurent, salut à tous les auditeurs, ici Fred Gagnon, reporter culturel boxe. Grosse semaine à la télé, d'excellents moments à Big Brother Célébrité. Richardson Zephyr a failli en venir au coup avec Kim Clavel. La production avait demandé à Richardson Zephyr, un excellent humoriste et pugiliste verbal champion du combat des mots, de piéger quelques-uns des autres participants. Richardson est allé voir Kim, la championne, pour lui demander de lui monter un petit entraînement cardio histoire de reprendre la forme. Et elle, pleine de bonne volonté, était super motivée. Elle lui proposait plein d'exercices, mais il voulait rien savoir. C'était ça le concept. Il voulait pas, ça y tentait pas, il faisait mine de rien comprendre. C'était vraiment malaisant parce que plus qu'il en mettait, plus qu'elle pognait les nerfs. Et je pensais vraiment que Rich allait finir par manger une solide volée. Heureusement, la cloche a sonné et le canular a pu être révélé et tout s'est bien terminé. Alors, c'était vraiment d'excellents moments que je vous invite à voir. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se revoit prochainement.
Bonne fête, patate rousse!
Les jeunes n'ont plus de respect. Vous avez pu reconnaître la voix de Frédéric Gagnon, chroniqueur boxe. Et après cette petite impolitesse, c'est Céleste Baillargeon, une amie assez proche qui boxe de manière olympique et qui commence à trouver le temps mauditement long. Pauvre Céleste, elle dit « J'aimerais ça passer pro, mais en même temps, pas de promoteur, je peux ramasser des années sans boxer. » Puis elle dit « J'aimerais ça boxer amateur, mais avec la pandémie, on peut pas plus boxer. » Fait que la pauvre Céleste voit le poids des années la rattraper et elle peut pas pratiquer le sport qu'elle aime. Mais chanceuse, parce que pendant la pandémie, elle a trouvé l'amour, elle est plus heureuse que jamais. Salut Céleste, je sais que t'écoutes pas le podcast depuis à peu près 10 épisodes. Je sais pas, t'es trop en amour, t'as même pas le temps d'écouter ton podcast préféré. Alors cette semaine, dans les nouvelles québécoises, j'ai une feuille pleine de nouvelles. Oscar Rivas va remonter sur le ring le 16 mars prochain, où il va faire face à Silvera Louis. Et là, ça a pris le monde de la boxe un peu par surprise. Ben là, vous allez dire, mais pourquoi Laurent? Silvera Louis, c'est un type qui a fait carrière de 2010 à 2016, surtout chez les poids lourds légers, là, ce qu'on appelle les 200 livres, si ma mémoire est bonne. Il a passé pro le 26 mars 2010 et il va se battre aussi le 16 mars 2021. Ça n'a pas rapport, ça, vous allez dire. Excusez-moi, j'ai une petite toux. À son sixième combat, il va affronter Oscar Rivas. Il va subir une défaite par split decision. C'est le combat de sa vie. Okay? Il fait une grande performance contre Oscar. Il a l'air de partout sur le ring. Oscar a probablement une soirée off en même temps. Tu sais, quand tout se passe bien pour un boxeur. Mais là, on va dire les vraies affaires. C'est vrai, mais il ne faut pas que je chauffe dans le micro. Mais on va se dire les vraies affaires. Okay? C'est un type qui a boxé en partie chez les 200 livres. Qui est vraiment pas énorme. T'sais, à ses trois derniers combats, il était sous. Non, même pas. À ses six derniers combats, il était sous les 205 livres, mettons. T'sais, tout le temps en dessous de 200 livres. C'est pas un poids lourd, OK? Là, il s'en va affronter Rivas. C'est un gars qui a subi des KO en carrière. Au premier, contre Andrei Ivanov au Théâtre Corona. Il a été arrêté au premier contre Dylan Carmen. Il a été arrêté au sixième contre Riyad Mehri. Et c'était pas pour les doux, OK? Il a été arrêté sur un uppercut contre Denton Daly. C'était vraiment pas chic, là, son dernier combat. Il dormait, OK? Puis il y avait de l'inquiétude à avoir, aller voir les vidéos. Faut savoir que Silvera Louis, c'est le propriétaire, avec son frère, du club de boxe Underdog. C'est un type qui est aimé de tout, qui est particulièrement gentil. Lui et son frère, là, c'est de la soie. Mais, j'admets que je me demande si la régie ne devrait pas refuser ce combat. Okay? En Oscar Rivas, on parle d'un gars de l'extrême élite. Un boxeur qui a une fiche de 26-1. 18 victoires par KO. Qui a participé aux Jeux Olympiques. Et surtout, qui est considéré présentement dans le top 10 des poids lourds. Okay? Il ferme le top 10. Il est souvent 8e ou 9e. Fait que quand je vois ça, je me dis, tu sais, je comprends que c'est un tune-up fight. Je comprends qu'on a d'autres choses pour Rivas. Mais je comprends aussi pour le promoteur puis le matchmaker, on est en pleine pandémie, puis c'est pas nécessairement évident de pouvoir construire une carte de boxe, mais à quel point la régie, le promoteur, le matchmaker, les amis autour peuvent pas mettre une main sur l'épaule puis dire « Regarde bien mon gars, si tu veux revenir à la boxe, on est là, on va t'encourager, mais sois intelligent dans ton matchmaking. » Rivas, c'est un tune-up fight. Mais pourquoi Silvera Louis, qui n'a pas besoin de boxe, d'envie, je dirais pas, ben moi si je reviens, moi aussi je vais m'en prendre un tune-up fight. T'sais, tu reviens depuis 2016, t'en vas direct contre Rivas, là. La lumière rouge qui allume, là, c'est. As-tu besoin d'argent de un? Puis de deux, tu t'en vas te faire massacrer. Genre. C'est pas intelligent, là. Rivas, il est gros, il est fort, il est actif depuis deux. depuis le premier combat en 2012. Je veux dire, on souhaite un combat compétitif, mais c'est très, très dur de prétendre que le combat soit compétitif. Puis tu sais, si vous me croyez pas, vous irez voir la cote à mise au jeu quand elle va sortir. Là, Rivas va être favori à 175 contre 1. Fait que je me demande pourquoi on en est là. Je me demande où est Top Rank aussi, tu sais, qui est Top Rank, qui représente Oscar Rivas. Tu sais, pourquoi qu'ils trouvent pas un adversaire américain puis qu'ils font pas se battre sur une carte aux États-Unis. Puis pour nous à la maison, tu sais, un gala de groupe Yvon Michel avec 8 combats, on n'a pas besoin de Rivas en finale pour être intéressé. Là. Je vais vous parler des autres combats. Vous allez voir qu'il y a en masse de sauce, il y a en masse de gravy sur le gâteau pour que j'aie pas besoin de Rivas en finale. Tu sais. Fait qu'on part avec Rivas contre Silvera Louis. Ça, c'est le premier combat annoncé. Sur la même carte, il devrait y avoir Patrice Volny parce qu'il y a beaucoup de sable dans son engrenage pour son combat contre le Polonais. Et Sébastien Bouchard va se battre. Sébastien Bouchard devrait se battre. Terry Ozias pourrait se battre contre Yann Pellerin ou les deux pourraient se battre de manière séparée. Pellerin, on entend qu'il pourrait affronter un boxeur dont j'ai oublié le nom, là. Celui qui a... Ben, je vais vous le trouver, là. J'ai mon box-rec ouvert. Celui qui a affronté David Whittam, puis que ça s'est fini de manière tragique. Gary, il pourrait affronter Gary Kopass. Mais c'est à suivre, là, où il pourrait affronter Ozias direct, tu sais. Fait que... Puis Marie-Pierre Hull, en exclusivité, je vous apprends que Marie-Pierre Hull sera sur cette carte. Fait qu'on arrive avec une belle carte. C'est au Théâtre Plaza de Québec. Ça a vraiment de la classe, OK? C'est un hôtel où côté jardin, ils font des spectacles dans le trou. Puis là, toi, tu peux t'asseoir sur ton balcon. Okay? C'est comme des belles terrasses. Puis là, comme des palmiers. Du monde qui chante. C'est magnifique. Allez voir ça. Okay? Je vous le dis, c'est vraiment... J'en ai vu des spectacles là-bas, là, via les Facebook. Et c'est vraiment magnifique. Donc, allez sur place. Je vous le conseille. C'est un superbe endroit pour faire de la boxe. Donc... On est surtout content que le groupe gym revienne en action. Tu sais, j'entendais sur les médias sociaux, là, ils vont perdre comme 25 000 piastres juste pour garder certains boxeurs actifs. Puis c'est ça qu'on a de plus en plus de besoin, là, malheureusement, si la pandémie pour durer. Mais on veut voir nos boxeurs locaux boxer. Je sais que Dyson Belfond aussi va être sur la carte. C'est un Belfond, là. Le talent, il sort des oreilles. Ça a l'air que c'est un gars qui croit beaucoup en lui. Là. Il s'entraîne au gym. Hard Knock Gym, c'est un protégé de... Ben, Céleste Baillargeon s'entraîne avec. Là. Puis il s'entraîne avec Herbie Wine. Okay? C'est vraiment un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Ça va être à suivre. Pourrait être sur la même carte, Mozawabi, un gros prospect de Toronto qui passe pro. Et pourrait être sur la carte aussi... Maslow McDenny qui accumule les combats à une vitesse incroyable et est allé en Colombie faire 2 combats en 7 jours. Donc, c'est les nouvelles pour le groupe Yvon Michel. Ce qu'on entend aussi, c'est que les billets vont très bien. Pas les billets, mais la vente de pay-per-view. Les gens qui se prennent à... Tu sais, les gens qui commandent à la dernière minute, il y a des gens qui se prennent en avance. Il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui se sont pris en avance pour commander... Le pay-per-view de Dicker contre Clarissa Shields. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'intérêt. Restons avec le groupe gym. Wilfred CI. Et là, ça, faut que je vous raconte ça. Vous allez pas me croire, mais vous irez sur la page du groupe Yvon Michel. Ceux qui me croient pas, okay, c'est incroyable. Hier, au Cameroun. Et là, j'aimerais ça retrouver, OK, Cameroun dans mes affaires. Ce sera pas long. On va faire ça tout le monde ensemble. Hier, au Cameroun, il y avait à peu près 12 combats pro, OK? Il y avait 23 des 24 boxeurs. On va dire 19 des 20, je pense que c'était 10 combats pro. C'était tous des débuts professionnels, sauf Wilfred Tseyi. Wilfred Tseyi affrontait Alexandre Jacques M. Boudot Elumou, un type entraîné par le père de Wilfred Tseyi, qui est sur l'équipe nationale. Et à vrai dire, là, c'était un excellent boxeur. On a vu une solide carte de boxe. Et là... Il faut que je vous raconte ça, vous allez capoter. Entre les rondes, on pouvait faire un don. Puis il y avait un animateur là, très coloré. Puis là, mettons, le deuxième ronde fini, il disait « Alors, dans la foule, on remercie Cynthia O qui remet une offrande de 50 francs à Dieudonné Wilfred Seyi. »
pour sa qualité de boxe. Là, c'est qu'eux autres, ils ont des bourses au minimum. Et les gens fortunés, parce que là-bas, dans ces pays-là, africains, là, j'ai lu beaucoup là-dessus, parce que moi, j'étais un homme de culture, et les gens qui réussissent l'exposent publiquement. Tu sais, ils vont aller à l'église, mettons, on va donner 2000$ au curé, mais ils vont dire au curé, hey, au micro, là, t'annonces mon 2000$. Alors, on voudrait remercier Gilles Cadorette qui remet 2000$. Tu sais, ça se passe vraiment comme ça avec le curé. Puis là, Hassan Ndam est arrivé, puis là, le Camerounais, okay, que j'imite très bien en parlant dans ma main avec le micro, est arrivé comme ça, puis il a dit « Le boxeur champion du monde, Hassan Ndam, remet une bourse de 50 000$ à Wilfred Seyi, 50 000 francs. » Mais là, le monde se sont mis à capoter sur Internet. 50 000$! Mais là, moi, j'ai fouillé, tu sais, puis des francs. Ça marche pas en francs, tu sais, c'est pas... C'est pas l'euro, là, au Cameroun. Là, j'ai vérifié. La monnaie, ça, là-bas, s'appelle le Naira. 50 000 Naira, ça vaut 161$ canadiens. Tu sais, c'est quand même un beau geste de la part de Hassan Ndam. Mais tu sais, c'est comme si, mettons, un homme fortuné au Québec, là, qui a beaucoup d'argent puis qui est dans les galas de boxe. Mettons, je vais donner un exemple. C'est comme si Yves Lévesque se levait puis donnait 160$ à un boxeur en deux rondes. Tu sais, c'est apprécié, mais... c'est pas 4 millions non plus. Là. Mais ça m'a fait rire parce que le 50 000 paraissait énorme quand nous, on écoutait ça en Amérique du Nord. Puis pendant le troisième round, okay, ça faut que je vous raconte ça, là, il y a un genre de lampadaire là, d'éclairage qui était au plafond qui est tombé sur la tête de l'arbitre. Okay? Fait que déjà, moi, que je trouvais ça folkloresque parce que il se donnait de l'argent entre les rondes puis que l'animateur parlait pendant les 30 premières secondes. Tu sais, mettons, le round recommençait puis l'animateur était là. On voudrait remercier Cynthia O qui remet la somme de 40 francs à Wilfred Seyi. Puis l'animateur continuait à se faire aller à la gueule avec la musique pendant les rondes. Ça, ça me faisait rire. Mais au début du troisième, il y a un lampadaire qui est tombé sur la tête de l'arbitre. Okay? Et l'arbitre, là, il avait l'air dans la lune sur un moyen temps. Là, ça a quand même fessé. Allez voir ça sur la page du groupe Yvon Michel. Puis là, Wilfred, c'est, il arrête de boxer. Il met comme un gant sur l'épaule. Puis il met même un gant en face en voulant dire il essaie de voir si l'arbitre est coupé ou commotionné. Puis là, le round continue. Tu sais, c'était magnifique. Là. Puis là-bas, ça a l'air que c'est un jeune homme d'affaires là, qui a probablement perdu de l'argent. Là. C'est dans un gymnase d'école. Ça ressemblait au gymnase à Louis Riel quand j'étais jeune. Puis ils ont annoncé beaucoup, beaucoup de cartes. Là. Puis il y avait plusieurs champions olympiques ou anciens champions du monde qui étaient sur place. En tout cas, c'était quand même une bonne ambiance. Le monde criait. Tu sais, si t'enlèves le lampadaire, puis le pourboire entre les rondes, ça c'était parfait. Mais moi, je veux vivre ça au Québec un jour. Là. Je veux aller porter 20$ à un boxeur, puis qu'on m'annonce au micro. Là. Laurent, s'écoute parler, remet 20$ à Raphaël Courchen. Tu sais, c'est quelque chose que je veux vivre un jour au Québec. Yvon Michel ou Camille, mettez ça sur vos cartes, mais possibilité de faire des dons entre les combats ou peut-être des moitié-moitié. Tu t'achètes un moitié-moitié, puis la moitié va au boxeur de ton choix, l'autre moitié s'en vient dans tes poches. T'sais, ça serait vraiment une bonne idée. Là. Tu mets les billets moins chers, tu fais un moitié-moitié, moi j'achète, je sais pas, 100$ de moitié-moitié, puis je choisis mon boxeur. Je veux de la nouveauté, ok. Donc, ça fait le tour pour le Cameroun. Marie-Pierre Houle, tenez-vous bien, elle sort avec un multimillionnaire de la région de Terrebonne qui est aussi un de mes amis personnels. Puis, elle n'est pas compliquée, Marie-Pierre. Son chum, il veut tout le temps lui faire plaisir. Son chum, là, c'est une soie sur deux pattes qui est vraiment attentif et à l'écoute de Marie-Pierre. Il a construit un gym. Il a dit, Marie-Pierre, les gyms sont fermés, c'est pas grave. Hein. Ça coûtera ce que ça coûtera, je te construis un gym dans la maison. Je vous le dis, là, cet homme-là, il a le pro gym dans son salon. Okay? Puis là, après ça, il a dit à Marie-Pierre, maintenant que tu as ton gym, as-tu besoin d'autre chose pour être heureuse? Elle l'a regardé avec ses petits yeux, puis elle a dit, je veux un chat. Il a Farley, oups, je viens de le nommer, il a acheté un chat, ok, mais un. Sauf qu'il l'a pris usagé. C'était un chat de seconde main qui avait déjà un certain âge. Puis le chat, il a eu peur, s'est caché dans un mur parce que le mur était comme pas fermé. Là. Il y a des rénovations. Quand tu construis un gym, ça se peut que tu aies un mur pas fermé. Puis le chat s'est caché dans le mur et ils ont fait venir du monde pour essayer de le retrouver. Et là, la bonne nouvelle TVA, le chat est sorti du mur après 6 jours d'exil. Donc Marie-Pierre est
est heureuse comme jamais et elle pourra s'occuper de son chat. C'était la chronique Marie-Pierre Hull.
Du côté d'Eye of the Tiger, on n'a toujours pas d'adversaire pour Arslanbek Makhmoudov et le nom de Alexander Ustinov est un peu sorti dans une de mes conversations avec mon recherchiste vedette. C'est que DAZN fait une offensive en Russie et semble beaucoup vouloir se servir de Makhmoudov pour vendre des billets là-bas. Fait que nous, on s'est mis à penser que pour aller chercher un ancien gars de l'élite russe qui est quand même dur à passer KO et qui mesure 6 pieds 8 en Alexander Ustinov, ça pourrait faire des belles photos à la pesée. Donc, à suivre pour Arslanbek Makhmoudov. On a vécu un difficile après Steven Butler. Il y a eu une sortie de la part de M. François Pratt sur les médias sociaux pour critiquer les gens qui chialent après les boxeurs. Moi, je suis un peu... Je crois qu'on a le droit de chialer, mais ça prend de l'argumentaire derrière. T'sais, arrive-moi pas juste avec « Steven est fini », mais arrive-moi avec « Steven est fini, virgule, pourquoi ?» Mettons, je crois que quelqu'un qui s'est fait mettre KO trois fois peut pas revenir. Plus y aller dans... Moi, j'aimerais ça qu'on jase de boxe vraiment de manière intelligente, qu'on ait le droit de se poser toutes les questions. Okay? Quand Ryan Pauling il se fait repêcher en première ronde par le Canadien, on se pose la question, est-il prêt à jouer dans la Ligue nationale à 18 ans? Pourquoi quand que Steven Butler passe pro, on peut pas se poser la question, passe-t-il pro trop jeune? Pourquoi les conversations sensées du monde du hockey, on n'est pas capable de les amener en boxe, tu sais, on se fait toujours dire, hein, t'as jamais boxé le tweet, devrais pas parler de ça. Mais ça, c'est une drôle d'affaire, tu sais, parce que si moi je suis boxeur, je veux pas que les gens qui s'intéressent à moi, c'est ceux qui ont déjà boxé. Je veux que les gens qui s'intéressent à moi, c'est les mêmes qui écoutent Salut Bonjour le samedi matin en mangeant leur toast. Parce que demander à Lucien Boutet, c'est comme ça que tu viens millionnaire. Tu sais, c'est en étant capable d'élargir le bassin de fans. Tu sais, écouter la boxe entre nous autres, là, on est combien? On est 4000 à écouter mon podcast à chaque semaine. Sur les 4000, il y en a peut-être 5% qui sont enclins à acheter des billets demain. Les autres, ils sont à la télé ou ils volent sur des streamings. C'est pas avec mes 4000 auditeurs qu'on va réussir à sauver le monde de la boxe. On a besoin de ratisser super large. C'était ma chronique vente de billets. Alors, ça fait le tour pour le local. Comme je vous l'ai dit tantôt, Maslow McDonough a gagné 2 combats en une semaine. Et il sera notre invité dans 2 semaines sur le podcast Poulain Tremblay. En vidéo à chaque vendredi à 19h sur les ondes de Boxing Town Québec.
Ben 85, c'est moi Tarzan Tyler, Tarzan la bottine Tyler, qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion c'est Keitonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre Ricky Martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant. Pour moi, Ricky Martel, c'était un petit fameux. Ils disent que c'est champion de la AWA. Le champion, c'est moi qui l'a, c'est Keitonga. Il n'est un autre. Il m'a promis que Martel, on l'a envoyé à l'hôpital pour la Saint-Valentin. C'est là qu'il va aller, le Québécois, Martel.
Ben, comme c'est mon anniversaire, ça se peut que ça y ait pris un peu pour endurer mes anecdotes de Tarzan la bottine Tyler ou de Joe le Duc. Tu sais, ça, c'est un peu... Écoute, c'est ma fête, là. C'est pas votre fête à vous autres. Fait que, comme c'est ma fête, c'est mes anecdotes de Joe le Duc et Tarzan la bottine Tyler. Ça, c'est un autre de mes folies. J'écoute des reprises de la lutte internationale des années 70 sans arrêt. Cette semaine, et là, je vais vous dire... Des fois, là, je ne suis pas super connaisseur des vieux boxeurs. Au Québec, oui, mais j'ai pris... aux États-Unis, des fois, je suis pas le meilleur. Là, Leon Spink est décédé. Et Leon Spink, on se rappelle qu'il a battu Mike Tyson en 60... pas Mike Tyson. Il a battu Mohamed Ali en 1978. Par split décision, dans ce qui est encore considéré aujourd'hui comme le plus gros upset un des plus gros upsets de l'histoire, ok? Et il va perdre ce titre-là de la WBC parce qu'il offre une revanche à Mohamed Ali, puis je sais pas pourquoi, mais la WBC n'accepte pas d'approuver le combat revanche. Probablement qu'il y a de quoi d'historique derrière ça. Il a été beaucoup... il est facile à reconnaître, là, il n'y avait pas de dents en haut. Okay? Puis c'est lui qui a gagné les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, ici, avec son frère Michael Spink. Les deux frères ont gagné les Jeux Olympiques. Leon Spink, il a fait partie de la marine et dans des moments moins glorieux, il a fait de la lutte, des arts martiaux mixtes et il s'est aussi battu à points nus dans les années 90. Il y a eu un long cancer. Écoute, c'est un nom qui va demeurer réellement mythique pour le Canada. Il a été en part aussi, il ne faut pas oublier qu'il a terminé, il a gagné le bronze au premier championnat du monde de l'histoire à Cuba, à Havana, en 74. Terminé deuxième aux Jeux panaméricains, gagné les Olympiques ici même à Montréal. Donc pour le sport montréalais, ça va rester énorme. Et il a fait partie de la plus grosse équipe olympique de l'histoire. On entend souvent ça, lui et son frère avec Mohamed Ali. C'est la. Pas Mohamed Ali, mais lui et son frère au Québec. Là. Ça a été l'équipe américaine a été la plus grosse de l'histoire. Puis il a affronté plein de monde. C'est juste. Juste pour nous autres, il a connu la défaite en fin de carrière contre Sugar Shane Sutcliffe. Ça, c'était vraiment dans des moments moins chic. Là. Je dirais que à partir de 85-86, ça allait moins bien. Tu sais, c'est un gars qui a vraiment étiré sa carrière. Mais ça a été spectaculaire, surtout à ses débuts, quand il a... Le fameux combat contre Mohamed Ali, là, c'était quelque chose sur 15 rondes en 78. Donc, décès de Leon Spink, ça a fait beaucoup parler hier. Teofimo Lopez va affronter George Camboso Jr. Puis ça, c'est un... C'est Teofimo, on va le dire. Là. Il est trop fort pour la Ligue présentement. Mais George Camboso, tant qu'à avoir un aspirant numéro 1, ben, aussi bien que ce soit George Camboso Jr. parce que ça va être un combat intéressant. Tu sais, George Camboso est capable de se défendre. Son surnom, c'est le Féroce. C'est un Australien. Il est 19-0, il a 27 ans. C'était considéré comme un méga prospect. Sauf que là, c'est sûr qu'il est peut-être pas un prospect au niveau de Teofimo Lopez, mais ça a été intéressant. Ses deux derniers combats, battu Lee Selby, il a battu Mickey B, il a une victoire sur Ray Perez, donc assurément un type qui sait boxer. Josh Taylor est probablement, ben pas probablement, là. Il est le meilleur boxeur chez les 140 livres présentement, je m'en ai dit de son époque, mais on peut pas. De son époque, c'est Terence Crawford. Mais Josh Taylor est incroyable. Il a des grosses réalisations olympiques, grosses mains gauches. Et là, il va affronter José Ramirez au mois de mai. Et c'est en plein ce qu'on veut dans le monde de la boxe. 1-2 dans la division. Les deux sont invaincus. Ce sera incroyable. La journée que Josh Taylor affronte José Ramirez, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez ce combat-là. De John Ryder, qui est toujours nommé pour affronter notre préféré, David Lemieux, fera face à David Morel. Et ça, c'est étrange, parce que Morel, il est champion d'une des nombreuses versions de la WBA, mais il est surtout âgé de 23 ans, c'est un Cubain. Puis on a décidé qu'on faisait une superstar avec lui, mais qu'on n'attendait pas. Là. Ils ont mis la pédale au fond pour notre ami David Morel. Puis Ryder, c'est un fatigant. Il est robuste. Il est fait massif. Il frappe fort. Peut-être, je vais faire une annonce, là. Peut-être une grave erreur du côté de David Morel. Dans une histoire qui est ultra intéressante, Jane Monguia négocie avec Golovkin pour un méga combat. Mais, comme il s'entraîne et il ne veut pas perdre son temps, il négocie aussi avec Kanat Islam, un autre Kazakh. Lui, il ne se casse pas le bicycle, il veut affronter des Kazakhs. Fait qu'il négocie avec les deux en parallèle. Bien sûr, Kanat Islam va être le deuxième choix dans cette histoire-là. Le premier choix étant Golovkin. Et Golovkin, lui, négocie avec Monguia, mais qui est son deuxième choix parce qu'il négocie surtout avec Ryota Murata. Il y a deux options dans la tête de Golovkin. Est-ce que présentement, il a décidé qu'il faisait les choses sans se soucier de notre ami Saúl Canelo Álvarez, ou est-ce qu'il a décidé de, ben regardez, je vais me mettre en position, puis je vais avoir tellement de ceintures autour de la taille, je vais tellement avoir unifié, puis battu les meilleurs boxeurs disponibles, on parle de Murata, que je vais devenir un essentiel pour Canelo, tu sais, le troisième combat. Donc, il y a juste lui qui le sait. Hein. Est-ce qu'il fait ça pour se rapprocher de Canelo ou il fait ça pour établir sa destinée sans le combat numéro 3 contre Canelo? Votre idée est aussi bonne que la mienne. David Benavidez pourrait affronter Caleb Plant. C'est le plan de Eddie Hearn avec le gagnant contre Canelo. Benavidez Plant, ce serait vraiment le meilleur 1 et 2 à ne pas s'appeler Canelo chez les 168 livres. Ce serait le combat parfait pour en sortir un du lot qui deviendrait l'aspirant le plus logique à affronter Canelo. J'achète ça. Germal Charlo a dit à David Benavidez, j'ai aucun problème à monter à 168 pour t'affronter, mais je veux que tu me donnes une preuve que tu t'es fait vacciner. Ça m'a fait un petit peu rire. Là. C'est... Qu'est-ce qui se passe avec toi, Charlot? Man, tu veux des preuves de vaccin maintenant pour affronter les gens? Tu sais, bientôt, ça va être quoi? Oh, on avait un adversaire, c'est pas fait vacciner. Fait qu'on l'affronte pas. On avait déjà assez des problèmes de visa, à part des problèmes de vaccin par-dessus. Et dans un autre schéma de pensée, chez les 175 livres, pour le titre de champion du monde vacant de la WBO dans le coin gauche, un travailleur, Joe Smith Jr. fera faire sa Maxim Vlasov. Et dans ce combat-là, on entend seulement parler de Joe Smith. Je veux juste vous mettre en le drapeau de danger bien levé bien haut. Maxim Vlasov nous vient de Samara en Russie. C'est un excellent boxeur. Il a subi la défaite à 3 reprises. Il a subi la défaite contre Isaac Chilamba, mais il l'avait quand même swingé au tapis 2 fois. Le verbe swingé. Il a subi la défaite contre Gilberto Ramirez dans un combat très compétitif. Et Gilberto Ramirez, ce n'est pas le dernier venu. Et il a subi la défaite contre Christophe Glowacki dans un essai chez les 200 livres. Il a battu le Canadien Denton Daly pendant qu'il était chez les 200. C'est un type qui revient à 175. Il a vengé sa défaite contre Isaac Chilamba en 2019. C'est un gars qui mesure près de 6 pieds 4. Je vous le dis, Joe Smith devrait l'emporter. Mais il en aura plein les mains contre Maxim Vlasov. Et quand je vois Joe Smith déjà prétendre qu'il est en négociation avec Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol, j'ai goût de lui dire, Joe, focus sur Maxim Vlasov, tu vas avoir les mains pleines la semaine prochaine. Parce que c'est ce qui se passe. Jean-Pascal a dit qu'il aimerait affronter Joe Smith pour unifier les titres. Beterbiev a dit qu'il aimerait affronter Joe Smith. Joe Smith a dit que si ça ne marchait pas avec Beterbiev, il allait se contenter de Dimitri Bivol. Donc, on a tout un paquet de bons boxeurs dans la même discussion chez les 175 livres. Et cette carte-là, samedi le 13 février prochain, très intéressante, parce que tu as Joe Smith contre Maxim Vlasov, tu as Richard Comey contre Jackson Martinez, et tu as Jared Anderson contre Kinsley Ibe. Kinsley Ibe, qui est un poids lourd, qui est devenu la saveur du mois pendant la pandémie, parce que ce gars-là, là, C'est un enragé, OK? Il boxe comme une machine. C'est un Américain qui vient du Nigeria et c'est connu. Si tu viens du Nigeria, tu frappes excessivement fort. Il a brisé le prospect de Top Rank, Guino Vianello. Il se promène, OK? À 285, 295 livres sur 6 pieds 4. OK, à 2,85, 6 pieds 4, OK, on l'appelle monsieur, mais il swing à deux mains, il a confiance en son menton. Je te dis, Vianello, là, il savait plus à quel sein se vouer, puis c'est un homme qui a beaucoup d'expérience amateur, puis qui a dû coûter un million en bonus de signature à Top Rank. Là. Il a brisé Top Rank cette soirée-là. Et là, il affronte Jared Anderson, qui est un autre prospect de Top Rank, OK, qui est 7-0, qui a seulement 21 ans. S'agit-il d'une erreur de matchmaking? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je vous dis, c'est assoyez-vous devant Jared Anderson et Kinsley Ebay. Puis si vous n'aimez pas le combat, je vous rembourse personnellement. Fait que, hein, vous ne direz pas que je gratte la scène. Vous avez le droit à un remboursement si jamais le combat ne vous satisfait pas.
Tout le monde au Québec veut parler français. Pourquoi tu penses que quand je vais aux États-Unis, tout le monde va aux États-Unis, ils veulent acheter une pièce américaine, ça leur coûte une pièce et 34 canadiennes. Pourquoi tu penses, Tarzan? Moi, j'ai jamais changé d'idée. Bravo, tu veux lutter contre moi, t'es un traître, tu parles à tout le monde. Que tu veux être, t'es un Québécois, y a rien au monde qui va t'enlever du Québec. T'es allé chercher un étranger, par exemple. T'es allé chercher King Tonga. C'est moi qui étais ton partner avant. 40 000 piastres qui m'ont été offerts. J'étais un cave, moi, je suppose. J'étais un petit cave, moi. Hein, bravo! J'étais au centre Paul Sauvé, puis à bac dans l'arène. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est, moi. Un vrai Québécois. Que le monde crie contre moi ou pour moi, ça me dérange pas. Ben moi, je le sais.
Merci d'avoir été là pour mon podcast d'anniversaire. Chaque personne qui a écouté jusqu'à la 42e minute, j'aimerais lui dire que je l'aime. Alors, c'est fait. C'est le temps d'essuyer vos yeux. On est présentement en conclusion de ce podcast. J'ai bien aimé ma première semaine de vacances. J'ai bien aimé vous faire un podcast aujourd'hui. Et c'est le. J'espère que vous m'écoutez en pré-Super Bowl, OK? Parce que. Ou même si vous m'écoutez après le Super Bowl, c'est pas grave. Parce que je veux vous dire que le football, c'est comme la boxe, OK? L'attaque vend des billets. Mais la défense gagne des championnats. Mais, si tu as beaucoup de défense, une attaque correcte versus une équipe qui a une grande attaque puis une défense plus que correcte, mais la défense plus que correcte devrait être assez pour que la grande attaque arrive. Là. En tout cas, je viens de me perdre. Ma prédiction, ça va finir 34-20 pour les Chiefs de Kansas City et vous allez voir la même chose qui est arrivée. Tu sais, quand Bernard Hopkins a voulu affronter Joe Smith, c'était trop, puis il est tombé en deux câbles. Tom Brady exagère. Il est rendu trop vieux. Il s'est fait sauver par une bonne défensive puis des bonnes options. Il va se faire intercepter trois fois ce soir. Il va passer pour moins de 222 verges. Il va avoir l'air vieux. Puis, Hopkins était tombé en deux câbles. Lui, il va recevoir un sac, OK? Il va se faire saquer. Puis, il va vouloir être trop fier. Il va marcher, puis il va s'effondrer dans un bac de Gatorade. C'est ma prédiction pour le Super Bowl. Le 30, j'espère que je me trompe. 31-20, je vous ai dit. 31-20, Tampa Bay. 31-20 pour Kansas City. Et le joueur du match, Clyde Edwards-Helaire, qui va tout faire par la passe. Et le fait qu'ils vont prendre les devants de bonne heure, il va avoir plus de touches, plus de courses, donc plus de touches au ballon que d'habitude. Puis c'est lui qui va écarquiller les regards. Donc 34-20, joueur du match, Clyde Edwards-Helaire. Puis mangez donc comme des cochons, genre, pourquoi qu'on est toujours obligé de faire attention? Je veux dire, on a juste une vie à vivre, on est en pandémie, on n'a pas le droit de rien faire. Laissez faire le février sans alcool, là. Buvez raisonnablement, là, tombez pas dans les pommes, mais je vous donne l'occasion ce soir de prendre une consommation par corps et de manger à votre faim. Okay? Arrêtez de vous limiter. Là. Mais faites attention le reste de la semaine, mais limitez-vous pas quand dans les grandes occasions. T'sais. Là, c'est le temps. Là. Donc, bon Super Bowl, bonne boxe et bonne semaine. Et mercredi le 10 février, inondez-moi en message pour me souhaiter bonne fête parce que j'adore recevoir une tonne d'attention. Merci, bonsoir.